Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h42, restez avec nous dans un instant, le petit déjeuner de l'actu, Philippe Bilger et Eric Revel, et vos appels 0826-300-300 et tout de suite. Et qu'est-ce qui fait parler ce matin avec la revue de presse, Benjamin Glaise?
Oui, et Benjamin, dans la revue de presse, il y a beaucoup de journaux qui reviennent évidemment sur la conférence de presse du Premier ministre hier soir.
Oui, rien ne change, résume hein, le petit bleu d'Agen, Castex ne lâche rien pour la dépêche du midi, le Parisien aujourd'hui en France, et pour cause, hein, les modalités du confinement ne sont pas allégées, il faudra attendre au minimum 15 jours pour voir peut-être certains commerces rouvrir. Une chose est sûre, ça concernera pas les bars, les restaurants, les salles de sport, pour qui l'horizon s'obscurcit de plus en plus. Pas de cadeau donc pour tous ces professionnels, comme le titre La Provence. Et ça cristallise donc les tensions. Confinement confirmé, colère attisée, lance l'indépendant catalan, avec des commerçants qui appellent déjà à manifester ce lundi dans les Pyrénées-Orientales. En tout cas, Sud-Ouest pose eh bien, de son côté la question de la discipline des Français dans ce reconfinement. Selon un sondage publié par Le Quotidien, nous serions 60% à avoir déjà bravé les interdictions de circulation.
Oui, alors autre dossier, cette fois dans le journal Libération, c'est le virus du complot.
Hein. Mais oui, Libé qui revient sur ce documentaire Hold Up, entre fake news et thèse conspirationniste. Ce film de plus de 2h40 agite Internet depuis quelques jours en prétendant démontrer que le Covid-19 est une manipulation orchestrée par les médias et les politiques. Eh bien, Libération qui fait le point sur toutes les fake news qu'on retrouve dans ce documentaire. Dans le Figaro, un autre dossier sur le terrorisme cette fois-ci, et le cri d'alarme des chefs du renseignement, les directeurs généraux de la sécurité extérieure et de la sécurité intérieure estiment que l'État islamique essaye de se reconstituer. Ils le disent dans une interview commune au Figaro, un cancer qui n'est pas vaincu définitivement et dont, selon eux, les métastases sont possibles sous forme clandestine malgré les efforts réalisés depuis les attentats du 13 novembre, il y a tout pile eh bien, 5 ans. Et puis terminons avec ce fait divers plutôt insolite à la une de la Nouvelle République des Pyrénées, des internes sans interdit à Tarbes. Pourquoi ? Eh bien, puisque dans la nuit de mardi à mercredi, la police a dû intervenir pour stopper un apéritif clandestin organisé par les internes de l'hôpital de Tarbes.
Oh bah alors.
Bah voilà, un comble quand on sait eh bien à quel point cette profession donne tant face à cette épidémie.
Oui, mais bon, ils étaient peut-être très organisés aussi, quoi, avec des surblouses et des masques, etc. Et à distance, bon.
Oui, sans pas empêcher les policiers d'intervenir, en tout cas.
Mais, visiblement, il y avait des manques. On poursuit notre revue de presse, évidemment. Avec, on arrive au week-end. Donc avec les hebdos, on va s'arrêter au Figaro Magazine ce matin avec Judith Ventrobe qui est avec nous. Bonjour Judith.
Oui, bonjour.
Bonjour. Grand reporter donc au Figmag. Il y a une interview particulièrement intéressante sur les vrais chiffres de l'immigration, en tout cas c'est sa version, de Patrick Stefanini. Hein. C'est le sujet de son livre et les bonnes feuilles sont publiées et c'est votre couverture.
Oui, absolument. Patrick Stefanini, on l'a connu comme directeur de campagne de François Fillon, mais il a surtout consacré sa carrière à l'immigration. Il était secrétaire général du ministère de l'immigration sous Nicolas Sarkozy. Et il nous raconte qu'il a dû mener une véritable enquête pour mettre à jour des chiffres qui sont, dans le meilleur des cas, cachés quand ils ne sont pas manipulés. Il nous explique par exemple que la France compte aujourd'hui 900 000 étrangers en situation irrégulière et pas 400 000, comme le prétendent les évaluations officielles. Et il dit que oui, on fait face aujourd'hui à une vague migratoire sans précédent, contrairement à ce qu'affirment certains sociologues, qu'ils se payent d'ailleurs dans son bouquin. Et puis il analyse les conséquences du phénomène sur notre système éducatif, sur l'emploi, sur le logement. Et il propose aussi des solutions qu'il a vu mettre en œuvre ailleurs avec succès.
Oui, oui. Patrick Stefanini, qui, c'est vrai, a été quand même aux affaires, hein, dans l'entourage aujourd'hui ce sont les Républicains, mais avant c'était à la fois le RPR, puis l'UMP, Judith Ventrobe. Hein.
Oui, oui, c'est un politique jamais élu, mais enfin, qui a toujours gravité dans les coulisses du pouvoir. À droite,
ouais.
Mais je vous dis, dans le vrai domaine de spécialité, c'est l'immigration. Et en fait, il a écrit ce livre, il me l'a dit, parce qu'il en avait assez d'entendre le débat tourner autour de contre-vérités, d'idéologie, pour rétablir quelques faits. C'est vraiment, c'est du factuel.
Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Judith Ventrobe. C'est à lire hein, dans le Figmag de ce week-end.
Oui, il y a aussi un spécial whisky, hein, je vous le dis.
Ah bon?
bien.
Ah ben, dossier spécial whisky. Ah, donc, c'est pour oublier un petit peu.
Avec modération.
Ou avec modération, quand
avec
même.
Avec modération, hein. Mais bon. Avec quelques bonnes bouteilles.
Et bam, et on y retourne.
Ouais. Merci, Judith Ventraub. On poursuit.
On poursuit, ouais, le petit déjeuner de l'actu ce matin. Philippe Bilger est avec nous. Eric Revel, vos appels 0800 26 300 300.
Oui. Vous êtes en standard. Absolument. Philippe Bilger, vous voulez revenir ce matin sur la nouvelle, on en débattait déjà hier, hein, des rétractations de Takieddine à l'encontre de Nicolas Sarkozy, hein, qui retirait donc ses accusations dans le financement en fait libyen. Hier soir, alors Nicolas Sarkozy s'est réjoui de ça, vous en avez déjà parlé dans les vraies voix hein, hier soir Philippe, mais c'est vrai qu'il ne faut pas quand même oublier que le parquet l'a rappelé en fait hier, qu'il y a toujours quand même malgré tout un certain nombre de charges. Hein.
Bien sûr, Nicolas Sarkozy et ses soutiens ont été immédiatement très enthousiastes en laissant penser que ça y est, la nouvelle fluctuation de Takieddine allait régler le problème et que dorénavant, Nicolas Sarkozy était totalement sorti d'affaire judiciairement. Il est clair que le seul élément à charge ne relevait pas que de Takieddine, qu'il y a d'autres éléments et que, mon Dieu, il y a des témoins plus fiable que Takieddine qui a mis en cause Nicolas Sarkozy non seulement devant le juge d'instruction mais qui avait répété cette mise en cause devant la police ou devant les médias. Donc je ne dis pas que Takieddine ne dit pas la vérité aujourd'hui mais je ne ferai pas fond absolument sur un tel personnage.
Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit hier soir, c'était une planche pourrie de manière. Hein, pardon pour le terme,
oui,
mais
c'était grossier de ma part, mais oui. Je crois que la métaphore est assez juste.
Oui, assez juste. Ce qui veut dire que ça ne va pas s'arrêter quand même les enquêtes autour de Nicolas Sarkozy, en tout cas sur cette partie du financement libyen, quoi.
Ah, vous avez raison, Patrick. Ça ne va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne. Comme d'autres, je ne suis pas animé par une hostilité systématique à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais ce que je veux simplement, c'est que la procédure se termine le plus rapidement possible, quelle que soit son issue, non lieu ou renvoi. Il est temps de l'achever, dirais, même si l'affaire libyenne a des particularités qui justifient une certaine lenteur puisqu'elle dure depuis 7 ans.
Oui, et lui, Nicolas Sarkozy, alors il demande, c'est relayé ce matin par certains journaux, des comptes aux juges, quoi, à l'ensemble en fait des juges.
Mais malheureusement, Nicolas Sarkozy reprend une méthode qu'il avait utilisée au début et qu'il avait heureusement abandonnée, qui était de mettre en cause les juges. Il est clair que Takieddine, par exemple, pour reparler de lui, lorsqu'il invente une machination ourdie par deux juges, Tourner et Van Riebeek, qui par ailleurs ne s'aiment pas, raconte n'importe quoi. Nicolas Sarkozy aurait tort d'endosser à nouveau cet habit de contestation des juges parce qu'il s'était sorti heureusement de cette attitude. Il ne faudrait pas qu'il y revienne.
Oui, bon, on en a déjà beaucoup parlé, Eric Revel, peut-être hier matin avec vous notamment, et un débat qui était assez tendu et vif entre Elisabeth Lévy et Françoise de Goix.
Oui, bah moi, ce qui m'interroge beaucoup, j'écoutais évidemment avec beaucoup d'attention Philippe Bilger, qui m'interroge beaucoup quand même, c'est une question centrale, je pense, qui n'a pas été posée, pardonnez-moi, parce que il peut apparaître un peu comme fou, ses revirements sont légendaires et il n'y a aucune raison de le croire ou de ne pas le croire, mais c'est, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à l'initiative de qui a été faite cette interview dans Match et dans BFM. Est-ce que ces journalistes ont été contactés pour aller au Liban, où Takieddine est en fuite, ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui l'ont contacté ? C'est super important comme question, Patrick, parce que s'ils ont été contactés pour faire cette interview, ça veut dire que le revirement de Takieddine, il peut être calculé et sollicité. Ben oui, mais c'est très important comme question.
Bien sûr.
Pourquoi ces deux journalistes partent au Liban pour faire l'interview de Takieddine tout d'un coup ? Ça, c'est une question, à mon avis, centrale. Alors, je ne sais pas s'ils ont répondu, je n'ai pas vu de commentaires, mais je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais c'est assez intéressant de savoir à l'initiative de qui cette interview a été faite et est-ce que ce revirement a été sollicité ou pas.
Mais vous avez totalement raison, Eric, et d'autant plus que cette vidéo où Takieddine revient sur ses accusations est extrêmement courte et que tout cela relève du Paris Match et de BFM TV. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais on sait que Paris Match appartient au groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy n'est pas très éloigné, puisqu'il appartient au conseil de surveillance. Je ne fais pas de procès, entendons-nous, mais vous avez raison, les deux, et puis on va voir de nouveau la guerre médiatique, Patrick, qu'on a décelé depuis plusieurs, entre, j'allais dire, le journal du dimanche et Mediapart.
Mediapart qui a maintenu hier dans un papier en fait ses accusations. Absolument. Alors peut-être pas en fait cette fois-ci en lien avec Takieddine, mais en argumentant avec d'autres éléments que retient encore pour l'instant en fait la justice.
Dans le champ médiatique, c'est assez amusant. On a évidemment Mediapart qui joue le rôle de l'avocat général de Sarkozy. Et de l'autre côté, on a le JDD qui, avec Gattegnaud, joue le rôle de l'avocat.
Oui, absolument. Un mot, on va parler beaucoup des petits commerces tout à l'heure et puis des mesures annoncées en fait, hier. Enfin, des mesures annoncées. Finalement, il n'y a pas de nouvelles mesures. Vous en parliez, Éric Revel, tout à l'heure. C'est un statu quo avec beaucoup quand même de conséquences dans énormément de secteurs. Vous avez parlé en fait du sport, mais on peut le multiplier à l'infini, mais presque. Plein de secteurs d'activité.
Oui, c'est un vrai sujet, mais j'ai voulu parler du sport ce matin, parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu différent de la fermeture des commerces parce qu'il y a des biens essentiels, mais quand vous regardez le nombre de fédérations qui sont en difficulté sportive, le sport amateur, c'est par définition un vivier d'élite, alors que les Jeux Olympiques de 2024 se profilent en France. Mais c'est surtout aussi un lien social très, 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 très fort. Ouais. Parce que sur le terrain, il y a de l'éducatif, il y a des éducateurs qui bossent. Mmh. Tous ces gens, la plupart du temps, dans les petites fédés, sont bénévoles. Ouais. Donc bénévoles, ça veut dire qu'ils ne touchent pas le chômage partiel. Ils ne bénéficient pas du plan de relance. Et en fait, on est en train non seulement de perdre sans doute des champions en devenir, avec cette échéance de 2024 et des JO à Paris, mais en plus, sur le terrain, les éducateurs sont horrifiés parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre pied avec... une jeunesse qui parfois est en grande difficulté, et que ce sport amateur rééquilibrait d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un sujet collatéral immense auquel... Finalement, Bercy ne peut pas prêter attention parce qu'ils sont sous les radars. Encore une fois, quand vous êtes bénévole, vous n'êtes pas salarié. Et si vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas de chômage partiel.
Mais il y a des salariés quand même aussi dans certaines associations.
Oui, bien sûr, il y a des salariés. Mais dans des fédés, il y a des fédés ou des structures. Je citais ce chiffre, vous avez 16 millions et demi de licenciés en France, toutes fédés confondues. Oui. Et vous avez en gros 155-158 000 structures ou associations qui gèrent ces fédés. Mais pour les plus petites des associations ou de ces fédés, il n'y a que des bénévoles. Oui. Or, ces gens-là, ils sont en train de disparaître, ils sont passés sous les radars de Bercy.
Alors, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, quoi, parce qu'il peut y avoir aussi une propagation du virus, même s'il y a des protocoles qui ont été mis en place dans beaucoup de clubs et de fédérations en fait, sportives. Il peut y avoir quand même une interaction dans les vestiaires, etc., des sports en fait, un peu aussi de combat. Quoi.
Oui, vous avez raison. En fait, les fédérations qui sont les plus en difficulté, ce ne sont pas des fédérations dont les sports s'effectue à l'air libre. Je citais le tir ou l'équitation qui, au contraire, voient leurs licenciés croître. Mais la plupart des fédérations qui baissent énormément, et je citais la lutte, parce que la lutte gréco-romaine, parfois, c'est un pourvoyeur de médailles pour la France aux Jeux Olympiques. Cette fédé voit ses licenciés, sans doute, à la fin 2020, s'effondrer de plus de 40%. Donc, tous les sports qui sont en salle, vous avez raison, Patrick, à cause du confinement et de l'angoisse qu'on a de se contaminer quand on fait du sport en salle, tous ces sports baissent. Et le basket aussi, et le volley aussi, et le hand aussi. C'est des sports qui vont voir leur nombre de licenciés baisser à deux chiffres. Je crois de mémoire que pour le handball et le volleyball, c'est 15%. Pour le basket, ça doit être 10 ou 12%. C'est énorme. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que, y compris pour des sports qui sont un petit peu beaucoup médiatisés comme le basket, l'une des principales sources de financement pour ces fédés et encore plus pour les plus petites, c'est uniquement la vente de licences aux adhérents. Donc si vous vendez plus de licences, vous vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Oui. Et si vous n'avez plus de chiffre d'affaires, ben, vous ne faites plus tourner votre fédé, votre sport, et les bénévoles s'en vont.
Oui, oui, c'est vrai. Énormément, effectivement, de conséquences. Et ce qui est assez paradoxal hein, dans ces conditions, mais on comprend aussi les difficultés d'organisation à l'école, c'est que dans les établissements scolaires, bah, en revanche, ça continue. Hein, ça continue dans les gymnases, dans les piscines, sur les terrains, avec ou sans protection. Et là, ça continue sans véritable distanciation. Bon, merci en tout cas Philippe Bilger, Éric Revel pour votre participation. Merci. Et puis les auditeurs qui pourront appeler là tout à l'heure pour parler, vous aurez la parole 0826 300 300. On va beaucoup s'intéresser justement aussi à l'aspect commerce, les petits en fait commerces et des mesures qui ont été mises en place, qui sont maintenues, et les risques sanitaires. On en parle avec nos invités, hein, Cécile.
Oui, on en parlera. On ira à Béziers hein, avec le maire Robert Ménard sera avec nous pour une réaction suite aux annonces de Jean Castex. Et puis on parlera aussi d'une association qui s'appelle le Cœur de Nîmes. Ce sont des Nîmois qui finalement rebondissent et remercient Amazon en disant que peut-être que grâce à Amazon, ouais, mais... ils se sont transformés et ils luttent justement contre Amazon.
Il y a un peu d'ironie quand même dans le merci,
bien sûr,
hein, évidemment.
Bien sûr que c'est de l'ironie, mais justement, ouais. Eux, ils en font quelque chose de positif.
Ils essayent.
Et c'est bien aussi de le signaler. On en parle avec vous dans quelques instants. Il est dans un instant.
Et Jean-Michel Apathy sera avec nous à 9h20, à partir de 9h15, 9h20.
Absolument. En attendant le journal de 9h, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05, merci d'être avec nous. On va revenir sur les annonces de Jean Castex, la réaction du maire de Béziers ce matin. Robert Ménard est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Robert Ménard, merci d'être avec nous. Voilà, on vous voit sur les écrans en même temps par Zoom, c'est ça. La magie de la radio aujourd'hui, c'est que
et avec on regarde la radio.
Oui, c'est ça, on regarde aussi en fait la radio. Il y a eu déjà un mot, peut-être une réaction Robert Ménard aux annonces qui ne sont pas des annonces puisque c'est un statu quo hier soir par le Premier ministre Jean Castex.
Ouais, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Pendant des heures et des heures, on nous explique qu'on va entendre quelque chose d'important et tout, et on a surtout entendu qu'il n'y avait rien, tellement rien, que même pour les commerçants, et c'est ça qui m'inquiète, on n'a pas l'ombre d'un début de bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, dire peut-être le 1er décembre, vous pourrez reprendre, je parle pour les commerçants de centre-ville et non alimentaires, honnêtement, ils sont le couteau sous la gorge, si j'ose dire, tellement le mois de novembre et le mois de décembre sont importants pour eux. Encore une fois, je ne comprends pas, je vous avoue que je ne comprends pas qu'on continue à nous expliquer qu'il serait moins dangereux d'aller faire ses courses dans un hypermarché derrière son caddie à des centaines, j'y étais samedi dans des hypermarchés de Béziers, que chez des commerçants à deux par boutique. C'est incompréhensible. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement nous dit un certain nombre de choses et que ce gouvernement nous dit un certain nombre de choses et il s'aperçoit après qu'il dit des bêtises. Monsieur Véran, par exemple, et j'arrêterai là, ouais. J'ai retrouvé une citation de Monsieur Véran. Il dit « J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé, n'est pas utile ». À cette époque-là, c'était les masques qui n'étaient pas utiles. Il nous a fait la même chose avec les tests, et maintenant, il nous fait la même chose avec les petits commerçants. C'est pas crédible.
Oui, oui. Alors, mais bon, c'est compliqué. On va le voir dans un instant. On va aller dans le centre de Nîmes aussi, où ils mettent des initiatives. Vous, comment faites-vous à Béziers, Robert Ménard?
Ben écoutez, d'abord, vous savez qu'on a du fil à retordre avec la justice, puisque comme un certain nombre de maires, on s'est mobilisé pour mettre en place des arrêtés municipaux et la justice administrative nous a donné tort. Mais ouais. Je vous le dis tout de suite, on va annoncer un certain nombre d'initiatives là, dans les heures ou dans les jours à venir avec d'autres maires pour dire qu'on ne laisse pas tomber les petits commerçants.
Quel type d'initiative, Robert Ménard ?
Il y a des recours. Ouais. Le décret lui-même est discutable, le décret qui nous est opposé. Donc, on va voir si on ne fait pas un recours devant le Conseil d'État par rapport à ce décret. Vous savez, le décret du 29 octobre qu'on utilise pour fermer les commerçants non alimentaires. Ça, c'est la première chose. Et puis, en attendant, on ne reste pas les bras croisés. À Béziers, j'ai mis en place un système de distribution gratuit, c'est-à-dire que si vous faites vos commandes chez les commerçants, chez des employés municipaux, dans des véhicules municipaux, qui vont chercher ces colis et qui les amènent aux destinataires. Par ailleurs, là, je suis aussi, vous savez, président de l'agglomération, et donc j'ai décidé, avec la région, de prendre en charge les loyers. On ne va pas attendre le gouvernement et les desiderata des propriétaires, des gens qui sont les propriétaires de ces commerces, des murs de ces commerces, et on va jusqu'à 1 000 euros par mois. La moitié va être payée par la région et l'autre moitié par l'agglomération de Béziers. On vient de mettre en place un site internet pour tous les commerçants qui aujourd'hui ont besoin qu'on leur commande un certain nombre de choses. Vous avez compris, il y a le volet judiciaire, il y a la dénonciation politique, parce que je crois que c'est irresponsable l'attitude du gouvernement, c'est eux qui sont irresponsables avec les petits commerçants, c'est pas moi et les autres maires qui sont irresponsables pour les mesures qu'on prend, et puis tout de suite on fait un certain nombre de choses.
Oui, mais alors s'ils ne prenaient pas de décision pour interdire que les gens en fait circulent trop et aillent dans les commerces, on pourrait leur reprocher de ne pas prendre de mesures et aussi les poursuivre juridiquement par la suite. Vous avez vu ce qui s'est passé en fait au printemps, les poursuites qui ont été engagées parce qu'il n'y avait pas eu de mesures de prise immédiatement, Robert Ménard.
Ben oui, bien sûr que je sais ça, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est difficile. Je ne suis pas un maire qui conteste toutes les mesures qui sont prises, pour assurer la sécurité de mes concitoyens. Je vous rappelle que j'ai été un des premiers maires à mettre en place un couvre-feu, un des premiers maires à distribuer, j'étais le premier maire à distribuer à tous les habitants de ma ville des masques. Oui. J'étais un des premiers maires à demander, et on l'a refusé à l'époque, de faire des tests dans toutes les écoles et tout. Donc, je ne suis pas du tout laxiste. Je dis juste sur un point précis, aujourd'hui, les petits commerçants vivent une situation terrible. Si elle était justifiée par des mesures sérieuses pour empêcher l'épidémie de s'étendre, je dirais oui, je dirais tant pis, c'est difficile, mais il faut accepter un certain nombre de sacrifices. Je ne suis pas convaincu, et on est plein de maires, on est des dizaines, plus d'une centaine de maires à avoir exactement la même analyse, alors qu'on n'est pas dans les mêmes partis politiques ou comme moi dans aucun parti politique.
Oui, parce que le gouvernement dit vous critiquez dans l'opposition, vous êtes poujadiste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on revient en fait à ce mouvement des années 50, quoi, en prenant la défense des petits commerçants. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Écoutez, quand on ne sait pas quoi dire, on traite les gens de poujadistes. Quand on ne sait pas quoi répondre, on dit c'est l'extrême droite. Attendez, je fais ça, je ne sais pas. Je prends Brigitte Barrès, la maire de Montauban, avec qui on fait toutes ces opérations en commun. Elle est extrême droite, je suis extrême droite, c'est de la foutaise. Moi, j'attends qu'on me réponde sur le fond. Ouais. Qu'on m'explique, si on m'explique, et si je suis convaincu, je change d'avis tout de suite. Qu'on m'explique encore une fois. Ouais. En quoi rentrer chez un marchand de jouets qui reçoit 3 personnes à la fois, qui vous met du gel sur les mains, qui vérifie que votre masque est bien porté, c'est moins dangereux. Plus dangereux que dans un hypermarché. Il faut m'expliquer ça. Si vous arrivez à m'expliquer, là, en direct, je dis que j'ai tort.
Alors, Robert Ménard, on en a parlé avec Francis Palombi, qui est le président des petits commerçants en fait, indépendants hier, et il y a derrière ça en fait, un problème qu'on n'arrive pas en fait, à trancher, c'est que, évidemment, il y a les petits commerces de centre-ville, comme vous l'avez dit, où ils peuvent prendre en fait, ces mesures, et c'est assez facile à réguler. Et puis, il y a après, les commerces indépendants aussi, qui sont dans les grandes galeries marchandes, les grands centres commerciaux, et si on les ouvre en fait, de nouveau, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. On pourrait réguler ça quand même ou pas ?
Ah oui, mais moi j'ai pris un certain nombre de décisions, je vous le disais à l'instant, par exemple, sur les histoires, sur les affaires de loyer.
Oui.
Mais ça s'appliquera et sur un certain nombre d'autres choses qu'on a faites dont je vous ai parlé. Oui. Ça s'applique au petit commerce à l'exclusion des centres commerciaux et des galeries marchandes.
Oui.
Ce n'est pas la même situation et je n'ai pas la même approche. Alors, c'est difficile pour les commerces en question. Moi, mon souci, c'est quoi ? Mon souci, c'est que depuis des années, avec les petits commerçants du centre-ville, ceux qui sont abandonnés, qui étaient abandonnés de tous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je sais, avec eux, s'ils meurent, c'est ma ville qui meurt.
Ouais.
C'est ma ville qui meurt.
Ouais.
Le gouvernement le pense comme moi, puisque depuis 2 ou 3 ans, il a mis en place des aides, et je remercie les pouvoirs publics, spécifiques pour ces petits commerçants de centre-ville, pas des galeries marchandes, pas des centres commerciaux, les petits commerçants des centres-villes, des centres historiques. Aujourd'hui, on va les tuer. C'est eux qu'il faut sauver, c'est eux qu'il faut défendre, et c'est eux que je défends.
Oui. Merci Robert Ménard, vous pouvez rester avec nous d'ailleurs si vous voulez encore quelques minutes parce qu'on va de, pas très loin, à Nîmes,
Ouais.
Avec Cécile.
Avec une drôle de campagne des commerçants nîmois qui disent merci à Amazon et Paul Judy Sellier est avec nous, un président de l'association Cœur de Nîmes et directeur du magasin La Cité, bien sûr. Hein,
oui. Bonjour Paul Giudicelli.
Oui, bonjour.
Bon, vous êtes directeur d'un magasin qui est spécialisé dans le prêt-à-porter hein, depuis 130 ans. Donc, c'est une histoire, en fait, de famille. Donc, avec...
Vous ne les faites pas.
bon, donc, avec beaucoup d'amis commerçants dans le cœur de Nîmes, pas très loin des arènes, là, vous avez mis ces petites pancartes « Merci Amazon ». Mais c'est un peu ironique et en même temps, c'est pour montrer aussi que vous bougez. Hein, quoi.
Voilà, non, on ne s'est pas endormi. Hein, de toute façon, il y a longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis là, on s'est dit, bon, on va utiliser notre ami Amazon pour se mettre un petit peu en avant et montrer ce qu'on fait.
Ouais.
Donc on a, voilà, l'idée est partie de là. Et donc, on a référencé plus d'une centaine de commerçants qui font du click and collect, du drive, de la livraison, de la vente sur Internet. Et on les a donc référencés. Ils sont sur notre site internet et ils sont aujourd'hui sur le journal de la Gazette.
Oui, et ça commence à marcher ou pas?
Mais ça avait commencé à marcher.
Oui, oui.
Ça avait commencé à marcher. Et en fait, là, c'est qu'on a appuyé là-dessus pour avoir plus de visibilité. De dire aux consommateurs, voilà, on est là. On n'est pas endormi dans nos commerces. Mmh. On est sur le pied de guerre, là, faut le dire.
Oui, certains disent quand même que c'est un petit peu compliqué de se mettre sur le numérique parce qu'il y a aussi le contact quand les gens viennent dans le magasin. Il y a besoin de ce lien social et de parler, quoi, en même temps.
Tout à fait. Ça, c'est c'est sûr, on a besoin de ce contact.
Ouais.
Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, oui, c'est ça.
On peut mixer les deux. Et puis, bon, je pense que même c'est une richesse pour nous hein, d'avoir les deux.
Ouais.
Mais c'est vrai que bon, on a beaucoup de clients qui
sont fidèles à la base, déjà.
Ils sont fidèles, oui. Et puis, ils viennent vous dire bonjour ou tout simplement parler de leurs problèmes.
Oui,
parfois.
Ouais.
Ce sont à la fois des clients, puis ce sont aussi des citoyens qui rentrent. C'est très enrichissant, c'est un beau métier le commerce, vous savez.
Ouais.
C'est pour ça qu'on se bat comme des dingues pour y arriver.
Oui, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est une belle initiative. On voulait la souligner dans le Grand Matin Sud Radio. Il y a eu toutes ces initiatives. L'autre jour, on parlait de la plateforme, par exemple, dans le Tarn, qui a été lancée aussi pour concurrencer plateforme digitale. Mmh. Il y a dans ma zone, lancée aussi par la région Occitanie. Robert Ménard parlait en fait de l'initiative
pour
prise avec la région.
Bah,
il y a eu la région, effectivement, et Carole Delia qui a lancé aussi ça dans ma zone, plutôt qu'évidemment qu'Amazon. Enfin. Qui concerne toute la région Occitanie. Oui, qui veut ajouter un mot?
Je voulais dire tout simplement que bon, c'est vrai qu'on est, sur un point de basculement de la société.
C'est vrai. Ouais.
Ça va être très très compliqué, on le sait. On sait qu'il va y avoir des dégâts.
Ouais.
Mais bon, si quelques-uns d'entre nous veulent s'en sortir, c'est maintenant.
Ouais.
C'est maintenant qu'il faut agir.
Ouais. Solidarité.
Eh bien, vous soutient.
Ouais. On vous soutient. Il y a une adresse à donner, d'ailleurs, pour aller sur le Click and Collect de chez vous, à Nîmes, là, ou pas?
Oui, c'est c'est notre site internet, www.coeurdenimes.
Hein. Cœur de Nîmes,
Cœur de Nîmes,
tout simplement, c'est le nom de notre association, et c'est Cœur de Nîmes.
Ouais,
eh bien, on va relayer.
Ouais.
Merci beaucoup. Hein.
Merci, hein, Pat Guzicelli. Allez, on continue. Vous pouvez continuer de nous appeler et réagir sur ce sujet, mais on va passer à un autre sujet, en fait, et on va aborder la
plus
politique.
Plus historique.
Oui, plus historique, mais pas que, parce qu'on va évidemment sur le général de Gaulle, le dernier cadeau du général. Ça, Cécile, c'est le livre.
Oui, c'est le livre aux éditions Flammarion, avec Jean-Michel Apathy qui sera avec nous dans quelques instants, puis on va revenir sur le suffrage universel.
Ouais, oui, bah, bien sûr. Et aujourd'hui, la 5e, fidèle à ses institutions, est-ce qu'il faut une 6e, le quinquennat, enfin bon, il y a beaucoup de questions toujours en fait d'actualité, on y revient dans un instant et puis on reviendra aussi comme chaque vendredi avec Emmanuel Razavi de Global Géo News, là cette fois-ci on reviendra sur les attentats du Bataclan, du Stade de France et comment ils avaient été perçus dans le monde et aujourd'hui les célébrations.
Les hommages, restez là, 9h17, à tout de suite.